Bonjour bien-aimé. Peut-être avant de rentrer dans cette prédication, j'aimerais que nous puissions prier pour notre pays de la France. Nous sommes sel de la terre, lumière du monde. Nous sommes dans le monde, même si nous ne participons pas au système du monde qui est sans Dieu. Et nous sommes solidaires de ce qui peut se passer dans le pays, là où nous vivons. Et nous ne pouvons pas être indifférents des situations que nous avons vues hier dans notre pays. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te prier en Jésus-Christ. Nous voulons lever nos voix. Depuis plusieurs semaines, nous le faisons régulièrement pour notre pays, le pays, la France, notre Dieu. Nous voulons remettre ses frères, ses sœurs, ses chrétiens, mais au-delà, de remettre tous les habitants de ce pays. Nous savons que nous prions le Dieu qui fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Nous savons que nous prions le Dieu. Non, nous prions Dieu créateur du ciel et de la terre. Tout appartient. Tout est à toi. Le monde est à toi. Et tu n'es pas indifférent à la situation sociale de notre pays. Nous te portons ce pays. Nous te portons les hommes et les femmes qui crient. Nous te portons nos gouvernants qui doivent décider. Nous voulons prier pour le rétablissement de la paix, de la sérénité. Nous voulons prier pour ceux qui ont été blessés, pour ceux qui ont subi les dégradations. Nous voulons te remettre, Seigneur notre Dieu, tout ce contexte, en priant que toi qui es le juste et qui sais justement comment intervenir, que tu interviennes. La Bible dit que c'est toi qui établis aussi le pouvoir pour que le gouvernant puisse être sensible et diriger son peuple avec justice. Et nous ne faisons pas de politique, mais nous pouvons te prier que toi, tu puisses aider notre pays à retrouver sa paix, notre Dieu. Tu es le Dieu de paix. Tu es le prince de la paix, Jésus. Envoie ta paix, notre Dieu. Étends ta main. Apaise, calme et donne une solution, car tu es capable, notre Dieu. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Voilà. Nous sommes témoins de Jésus-Christ et nous sommes chrétiens à genoux dans toutes les situations de la vie, n'est-ce pas? Et justement, le thème que nous voyons depuis quelques semaines dans l'évangile de Matthieu, celui que nous avons vu encore dimanche dernier, nous invite à la compassion, n'est-ce pas? Ce matin, nous continuerons toujours dans cette thématique de la moisson, en abordant un autre livre, un livre qui nous montre comment l'Église s'est appropriée très tôt cette mission que Jésus lui a confiée. Je survolerai avec vous assez largement, et peut-être pas dans tous les détails, Actes chapitre 1 verset 1 à Actes chapitre 12 verset 24. C'est un livre que nous étudions avec les responsables qui sont dans la formation ITA. Et nous aborderons aussi tout à l'heure, à la fin du culte, dans le moment qui nous intéresse pour la formation biblique de l'Église, un chapitre aussi de ce livre des Actes, parce que nous voulons voir ce que Dieu a fait dès le commencement, ce qu'il est capable de continuer de faire. Et la semaine dernière, nous avions parlé de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 9. Nous avions fait une longue lecture et ce matin, j'aimerais nous rappeler quelques versets. À partir du verset 36 du chapitre 9, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et nous avions parlé en ce moment-là de ce texte et nous avons essayer d'éclairer ce que Jésus voulait dire. Et nous avons mis l'accent, j'avais mis l'accent sur trois aspects. Bien d'autres, mais pour ce rappel de ce matin. Le premier accent était sur le fait que Jésus était engagé dans sa mission par rapport à la compassion. À la vue des foules, il eut compassion. Et nous avons expliqué, j'avais expliqué que cette compassion peut être identifiée à cette douleur, hein, cette douloureuse empathie devant les situations de vie que Jésus rencontrait dans ce parcours qu'il faisait dans toute la Palestine. Il n'était pas insensible, il n'était pas indifférent, il était touché par les situations des vies de ceux qu'il côtoyait. Il partageait leurs maux et leurs souffrances. Et il le partage aujourd'hui encore avec notre humanité tout entière. Le Dieu dont nous parlons est un Dieu qui est... Généralement, on nous le présente comme un Dieu qui a un cœur, n'est-ce pas? Même s'il n'est pas un être humain, l'idée du cœur ici de Dieu, c'est l'idée de sa sensibilité. Il n'est pas indifférent. Il est touché par les situations que les hommes peuvent vivre. Pas simplement par les situations matérielles, pas simplement par les situations, je veux dire, sociales et humaines, mais par la situation premièrement spirituelle, l'état du péché. L'état du péché, cette séparation qu'il y a entre lui et les hommes, séparation qui a pour conséquence, à la fin de notre séjour terrestre, de ne pas être auprès de lui, d'être loin de lui. Et Dieu ne veut pas justement que les êtres humains soient loin de lui. On dit que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance et qu'ils soient sauvés. Quitte à chacun de nous d'y répondre, par oui ou par non. Donc cette compassion est au cœur de la mission de Jésus. Il y a aussi cet aspect des brebis, comme des brebis languissantes et fragiles. Et j'ai expliqué que parfois notre contexte social, notre contexte territorial ou national peut nous faire croire qu'on n'a besoin de rien, que tout se passe bien. Et puis il y a des événements comme ceux que nous vivons depuis 15 jours qui nous rappellent que quel que soit le développement d'une société, la fragilité sociale est bien au cœur de la société. Est bien au cœur de la société. Des choses que nous voyons d'habitude dans des pays lointains, nous les voyons là aujourd'hui, à côté de nous, dans nos villes, dans notre pays. Et ça nous rappelle que quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la condition sociale, on est tous des humains embarqués dans le même bateau. Le péché, la détresse, la pauvreté. Comme des brebis qui n'ont pas de berger, errantes et languissantes. Et cet aspect de brebis ne fait pas de nous des gens qui n'ont pas une intelligence. Au contraire, les livres de Genèse nous disent que Dieu nous a créés aussi intelligents que lui. Mais l'idée ici d'une brebis, c'est que, au-delà de ce que nous pouvons savoir, nous ne savons pas le long terme. Comme la brebis, cet animal qui a besoin d'être guidé finalement, qui ne peut pas survivre d'elle-même, nous avons besoin de Dieu, car nous ne pouvons pas survivre de nous-mêmes. L'histoire de notre monde est remplie de cette réalité-là. Elle est au cœur de cette réalité-là. Et qui est le bon berger? C'est Jésus. Jésus est le bon berger. Celui qui prend soin de nos âmes. Son premier défi, il n'a pas de défi, mais le premier axe de la relation que Jésus entretient avec nous, ce n'est pas d'abord pour notre vie matérielle, parce que celle-là, elle aura un terme. Pour les plus anciens, ils vivront 120 ans. Au bout du compte, nous partirons tous. Mais Jésus sait que ce qui est éternel, c'est notre âme. Celle-là, elle est éternelle. C'est elle qui est destinée à rentrer dans l'éternité. Et c'est pour celle-là qu'il se préoccupe d'abord, même si après, il se préoccupe aussi de notre vie sociale et humaine, n'est-ce pas? Jésus est le bon berger, le véritable pasteur de nos âmes. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, la moisson est grande, parce qu'il voit tous ces hommes, toutes ces femmes de son époque, mais au-delà, parce qu'il est Dieu, il voit tous les hommes et toutes les femmes des siècles qui vont venir après lui. Et on a la preuve dans Jean chapitre 17, quand il prie, il dit, je prie pour ceux qui sont là aujourd'hui, mais je prie pour ceux qui viendront après. Jésus voit toute la détresse à venir de toute l'humanité, cette humanité sans Dieu, finalement. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jésus déclarait en ce moment-là que l'Église, parce que Jésus considère les disciples, d'abord les apôtres, les douze, comme symboliquement représentant le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu, donc l'Église. Jésus disait en ce moment-là que l'Église participe pleinement à l'accomplissement du plan de Dieu. Et que la première assemblée de l'Église, c'est de prier. Car la prière du juste est d'une grande efficacité. Elle sépare âme, jointure. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Si les chrétiens ne croient plus à la puissance de la prière, le monde est mal embarqué. Parce que les théologiens expliquent que Dieu, il peut agir au-delà de nos prières, mais il a décidé d'agir avec la prière de l'Église. C'est pour ça qu'on a régulièrement dans les évangiles et aussi dans les épîtres, prier sans cesse, prier pour tel, prier pour un tel, prier pour... L'Église doit être constamment, régulièrement à genoux, dans l'intercession, dans la louange, dans l'adoration. Ici, c'est justement l'Église qui doit porter cette moisson, demander à Dieu, Seigneur, 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 il y a tant d'hommes, il y a tant de femmes, et surtout quand nous vivons des situations comme celle d'aujourd'hui, comme celle d'il y a depuis 15 jours, nous devons être constamment à genoux et d'implorer la grâce de Dieu d'éclairer l'intelligence de ceux qui ont besoin d'être éclairés pour trouver la paix, pour amener la paix. Mais surtout, que les hommes et les femmes réalisent que finalement, c'est de Dieu qu'on a besoin. Certes qu'on a besoin d'un peu de sous aussi, mais au fond, c'est de Dieu qu'on a besoin. C'est pour ça que Jésus, dans toujours cet énoncé de la mission, dans le Matthieu, toujours chapitre 10, après le chapitre 9, il met tout de suite les disciples au travail. Comme pour lui-même, il donne une première réponse déjà à cette prière. Lui qui a dit, Matthieu 9, verset 37, priez, le maître de la moisson, Matthieu chapitre 10, il envoie les 12 en mission. Et les 12 sont pour représenter ici comme la première réponse de Jésus à la mission présente, pendant que Jésus est encore là. N'est-ce pas? Immédiatement, il n'attend pas, non. Il agit dans l'instant d'après, dans les jours qui suivent. Il agit, il donne une première réponse. Jésus trouve une solution pratique. Les 12 sont envoyés. Et le texte, à partir du chapitre 10 de Matthieu, chapitre 11, on les voit dans l'action, les disciples aussi, tout comme le maître. Et même après, ils sont revenus tout contents en disant, même les esprits nous sont soumis. Même les esprits nous sont soumis. Et puis Jésus, quand le Seigneur donne cette mission à Matthieu de nous relater les événements, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus laisse cet ordre de mission. Aux 12, mais les 12 représentent l'Église. Ils sont le nouveau peuple de Dieu. Ils représentent symboliquement le nouveau peuple de Dieu. En le confiant, en la confiant du moins cette mission aux 12, c'est à l'Église que Jésus finalement confie cette mission. Alors Jésus s'approcha, Matthieu chapitre 28, 19 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. M'arrêter un instant sur cette promesse de la présence de Jésus. Mardi dernier, le frère Claude présider la réunion du soir et m'en font passer un très bon moment dans la prière. Et dans l'exhortation qu'il nous avait partagée, il nous avait exhorté sur le psaume 121, verset 5. Et ce début de semaine, j'avais un défi important qui était à l'horizon. Pas que je craignais ce défi, mais j'avais besoin que Dieu le valide pour pas que je le reprenne, ce défi-là. Et c'est vrai que quand ce frère nous a exhortés, en fait, le psaume 121, verset 5 était pour moi. Était pour moi. L'église de Dieu est bénie quand des hommes et des femmes, peu importe leur titre, c'est pas le titre finalement qui fait l'homme ou la femme de Dieu, c'est sa consécration à Dieu. Et le frère Claude, lorsqu'il a partagé ce psaume 121, verset 5, il est écrit: l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Et il a insisté sur ce verset: l'Éternel est ton ombre protectrice. Et moi, je l'ai pris littéralement au mot, j'ai dit: Seigneur, sois mon ombre protectrice pour ce qui arrive bientôt. Et Dieu, et depuis mardi, mercredi jusqu'à ce jeudi matin, voilà, j'étais dans ce moment de prière avec ce verset que le frère nous avait partagé. Et le Seigneur a fait grâce et j'ai pu valider cette épreuve-là aussi. Et j'étais reconnaissant à Dieu de voir que finalement, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Nous sommes tous ouvriers et ouvrières. Claude l'a été pour moi mardi dernier. Finalement, ce n'est pas le titre, c'est la consécration d'un frère, d'une sœur, qui fait de toi un ouvrier, une ouvrière, qui fait de toi un missionnaire, une missionnaire. Ponctuellement peut-être, mais aussi peut-être dans la durée. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse! Quelle promesse! Si ce matin tu en doutais, saisis ce texte pour toi. Dieu, Jésus-Christ te dit qu'il sera avec toi. Lui-même, il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin. Prends-le pour mon incontent. Prends-le pour mon incontent. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le déclare. Sa parole est oui et amen. Il est la vérité. Ensuite, on voit que ce témoignage, n'est-ce pas, de Matthieu traverse ensuite l'église. Et on arrive, mais aussi Luc nous le dit, n'est-ce pas? Luc nous le dit à la fin de son évangile. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit: voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Voici donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On est à la fin de l'évangile de Luc. On est à la fin du ministère terrestre de Jésus. Et Luc, qui est l'auteur à la fois de l'évangile de Luc et qui est l'auteur des Actes des Apôtres, dans le premier livre des Actes des Apôtres, nous montre comment cette mission va s'accomplir finalement. Quand Jésus dit à la fin de l'évangile de Luc: restez ici, Luc nous rappelle, non, il nous dit comment la suite s'est présentée à partir du verset 1 du chapitre 1, quand il commence à dire: excellent Théophile, je vais te raconter. Et puis au verset 8 de Actes chapitre 1, verset 8, on a cette ordre de mission qu'il donne aux disciples. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie et jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. On a toujours ce rappel du monde, n'est-ce pas? Dans Matthieu 28, on avait allé dans le monde entier. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toujours cette thématique. Alléluia. Dieu est le Dieu de ce monde. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui veut prendre soin. C'est lui qui veut prendre soin, n'est-ce pas? Et quand on traverse cette, ces 12 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, on voit comment Dieu a agi, comment les choses se sont présentées, comment les hommes et les femmes, les chrétiens de cette première heure, ont été en mission pour Dieu. On le voit au travers de trois grandes parties, n'est-ce pas, dont je vais donner quelques éléments sans rentrer dans les détails. La première mission se passe totalement à Jérusalem. Gardez dans votre esprit le verset 8 de Actes chapitre 1. Et dites-vous, c'est le même témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités du monde. Et quand on lit le livre des Actes, on réalise que ça s'est passé exactement comme ça, géographiquement comme ça. Dans l'évangile, dans cette épître du moins, à Jérusalem, on voit pas mal de choses. On voit déjà dans les 26 premiers versets du chapitre 1, comment les leaders d'alors, les apôtres et tous ceux qui étaient là dans la maison haute, les 120 personnes qui priaient, ont été finalement investis de l'autorité de Dieu. Cet événement qu'on appelle la Pentecôte, cet esprit qui descend sur eux, des hommes simples, hein, même les sacrificateurs, même les gens qui étaient les théologiens, les autorités étaient étonnés, ils disent, mais c'est qui ce Pierre? On ne le connaît pas, il n'est pas sur le registre des hommes les plus intelligents de la ville. C'est un anonyme ce Pierre, oui, parce que son métier c'est pêcheur de poissons. Mais il a une éloquence, il a une conviction, il a une théologie qui désarme même les plus grands théologiens. Ils se disent, mais il a pas été à la fac avec nous celui-là. Il n'a pas étudié la théologie avec nous, mais comment se fait-il? Parce qu'il a été enseigné pendant 3 ans par Jésus. Il a été au contact du maître pendant 3 ans. Non seulement au contact de la doctrine de Jésus, mais au contact de la compassion et de l'œuvre de Jésus. Et il n'avait plus qu'à attendre l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est donné permanemment, parce qu'on sait que l'Esprit était là, l'Esprit fait partie de la Trinité, il n'a jamais été absent. Mais Jésus dit qu'il viendra finalement de façon plus permanente pour guider les hommes qui feront confiance à Dieu. Pour être là comme ce protecteur, ce paraclet, ce soutien, cet appui, cet éclairage, cette guidance, ce leader, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Et quand il vient, Actes chapitre 2, et que les apôtres sont visités, waouh, quel événement, quel événement. Tous ces 6 chapitres sont traversés par les apôtres qui sont à l'action pour la gloire de Dieu, qui ne cherchent pas leur propre nom, mais qui sont eux aussi, comme le maître, émus de compassion, à chaque fois la compassion, touchés par les situations. Vous savez la différence entre quelqu'un qui fait son one-man show et quelqu'un qui agit par compassion? C'est que celui qui agit par compassion, ce n'est pas ce qu'on dit de lui qui l'intéresse. C'est comment les gens vont bien. Comment les gens vont. C'est ça qui l'intéresse. Peu importe ce qu'on dit de lui. Et vous savez que régulièrement, Jésus dit, n'allez pas le dire, parce que ce n'est pas ce qui l'intéressait. Il dit, si tu vas bien, c'est l'essentiel. Que tu ailles le dire ou pas, ce n'est pas ça qui m'importe. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as compris? Est-ce que les choses changent pour toi? Est-ce que ça bouge dans ta vie? Est-ce que ta vie est touchée par Dieu? Jésus missionne l'Église et l'Église est en action. Et les apôtres ont repris le relais dans ces 6 chapitres. Et on peut remarquer que ce qui frappe, c'est Actes chapitre 2, verset 42, verset 46, verset 47. On dit toute l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Toute l'Église baignait dans cette atmosphère spirituelle finalement. Un, ils se laissaient enseigner. Eux-mêmes, ils étaient constamment aussi dans la lecture, dans l'écoute de la parole. Deux, il y avait une communion fraternelle. Ils se sont considérés comme des frères et des sœurs. Ils n'étaient plus des membres d'un club ou des religieux. Non, c'était une famille, la fraternité. Ils partageaient le pain ensemble. Ils rompaient le pain. Et puis, ils étaient dans la prière, ensemble. Et Dieu produisait des choses incroyables. Et puis, quand on passe à cette deuxième section à partir du chapitre 6, verset 8 au chapitre 9, verset 31. Là, on découvre des gens qui ne sont pas des apôtres, des anonymes, des chrétiens. Parfois, ils n'ont pas de nom. mais qui sont aussi dans l'action, qui sont dans la mission. On a quelqu'un comme Étienne, le martyr d'Étienne. Étienne, il ne fait pas partie des apôtres, il est même peut-être deuxième génération de chrétiens. Il a été nommé à un moment donné comme quelqu'un qui devait aider à servir aux tables, mais lui aussi, quand on lit son discours, on dirait qu'il avait fait une faculté de théologie. Mais non, il avait été enseigné par les apôtres. Il était capable de redire cette parole avec conviction, au point qu'on l'a mise à mort, c'est Étienne. Premier martyr de l'Église, Étienne, premier martyr, tué à cause de sa foi. Mais incroyable, c'est Étienne, lorsqu'on le martyrisait, on dit ses yeux se sont levés, il a vu qui? Jésus, à la droite du Père. Et les gens qui l'habitaient ont dit que son visage était en paix. En paix. Et ce témoignage, on le retrouve dans ce qu'on appelle les martyrologues, c'est-à-dire tous les témoignages des martyrs de cette première époque de l'Église. C'était des gens, même quand on les tuait au bûcher, leur bourreau disait, c'est incroyable, c'est incroyable. Ces gens brûlaient dans le feu, mais leur visage était en paix. Et ils ont eu du remords, même les bourreaux ont eu du remords. La troisième partie, quand on lit, c'est le début du ministère, n'est-ce pas, Antioche de l'apôtre Paul. Voilà quelqu'un qui était un religieux de l'époque, quelqu'un qui avait pris fait et cause pour la fatwa religieuse de l'époque, pour décimer l'église qui commençait. Il avait l'autorité d'arriver dans une ville, tous ceux qui étaient des chrétiens au nom de Jésus-Christ, il leur sommait de se repentir, donc de changer de foi, sinon il les amenait en prison, pire, il les livrait à la mort. Paul, en ce moment il s'appelait Saul. Saul de Tarse, parce qu'il habitait à Tarse. Il était fier de cette mission. Puis il rencontre Jésus, ce qu'on appelle sur le chemin de Damas. Il a cette rencontre incroyable, que lui seul il peut qualifier. Les autres ont vu un événement, mais ils n'ont rien compris. Il n'y a que lui seul qui a vu et qui a entendu. Et la question qu'il pose dit, qui es-tu, Seigneur? Et la réponse de Jésus est éloquente. Jésus dit, je suis l'église que tu persécutes. Jésus a dit, je suis l'église que tu persécutes. Jésus a dit, je suis l'église que tu persécutes. Jésus s'identifie à l'église, frères et sœurs. Si nous sommes ici, nous sommes ici au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas juste une organisation. Non. Nous ne sommes pas juste une association. Non. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Quand quelque chose arrive à l'église, Jésus le ressent aussi. Il dit à Paul, je suis l'église que tu persécutes. Ma prière, c'est que chacun de nous comprenne la portée de ce que ça veut dire pour notre église de Créteil. Le psaume 115 dit, non pas à nous, Seigneur, mais à toi, donne gloire. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, même si, en retour, Dieu fait des choses pour nous. C'est ça qui est merveilleux. Et puis terminons, quand on sillonne, quand on lit, quand on étudie tout ce texte, on voit finalement qu'il y a un refrain qui revient régulièrement. Il y a un refrain. Et ce refrain-là, c'est 2.40, il persévérait l'enseignement des apôtres. 2.47, il louait Dieu et trouvait un accueil favorable auprès de tous ceux du peuple tout entier. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. 4.4, parmi les auditeurs de la parole, beaucoup étaient devenus croyants. 5.42, chaque jour au temple comme à domicile, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. 6.1. En ce jour-là, le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes se mirent et les Hébreux, parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Donc ça, c'est la communion fraternelle. 6.7. La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples augmentait. 9.31. L'église, sur toute l'étendue de Judée, de la Galilée et de la Samarie, vivait en paix. Elle s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Et grâce à l'appui du Saint-Esprit, elle croissait. 11.21. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. 11.24. C'était en effet un homme droit, rempli du Saint-Esprit et de foi. Une foule considérable se joignait ainsi au Seigneur. 12.24. La parole de Dieu, cependant, croissait et se multipliait. Le constat qu'on voit, c'est que quand l'Église s'approprie la parole de Dieu, la conséquence, c'est que les hommes et les femmes grandissent dans leur foi. ils deviennent des chrétiens matures, des hommes et des femmes solides pour Dieu. Et la conséquence après, c'est que l'Église grandit en qualité. La première croissance, c'est la qualité. L'Église grandit en qualité. Et ensuite, en nombre. Aujourd'hui, c'est le contraire. On grandit en nombre, et puis après, la qualité laisse à désirer. Aujourd'hui, le premier critère qu'on veut voir si une église est vivante, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens? S'il y a beaucoup de gens qui y vont, ça ne peut être que bon. Donc on y va aussi. Je peux faire quand même remarquer que si c'est le critère du nombre, il y a bien des religions qui ont plus de nombre que nous. Donc si c'est le critère du nombre, il faut peut-être aller dans ces religions-là. Parce qu'elles attirent plus de personnes. Donc ce n'est pas le critère du nombre qui est le premier. C'est le critère de la qualité. La parole était enseignée. Ils s'appropriaient la parole. Ils grandissaient dans leur foi. Et quand on grandit dans sa foi, Dieu transforme notre caractère. Et on ne peut plus dire, moi c'est comme ça que je suis. Non, parce qu'on dit, oui, je suis peut-être comme ça, mais Dieu va me transformer à l'image de son Fils. Car le but de nos vies, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Être pétri de l'amour de Dieu. Si ce n'est pas ton défi, tu t'es trompé d'objectif. Ton défi, ça doit être à l'image de Jésus-Christ. Certes, on ne sera pas des clones de Jésus, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que chacun de nous grandisse en se laissant transformer par l'amour de Dieu. Et que son caractère soit transformé. Et s'il y avait quelque chose à retenir pour terminer, je vous encourage à retenir ces cinq choses. Pour l'Église tout entière, que Dieu nous donne de persévérer dans l'enseignement. Que chacun de nous puisse aimer méditer la parole, la lire, venir les mardis, écouter, être encouragé comme je l'ai été mardi dernier, comme bien d'autres mardis aussi. Et méditer la parole individuellement, que nous puissions vivre cette communion fraternelle. La communion fraternelle, on en a fait un objectif l'année dernière, c'est que chacun de nous apprenne à connaître l'autre. Et qu'en nous connaissant, nous apprenons à nous aimer, à nous soutenir, à être ensemble. L'ennemi de la communion fraternelle, c'est la calomnie, c'est la division, c'est le mensonge. Mais ce n'est pas la place de ça ici. Dans la fraction de pain, donc cette intimité qu'ils avaient les uns avec les autres, cet aspect de manger ensemble finalement. On mange ensemble en général avec des gens dont on veut se rapprocher. Je ne sais pas si vous faites un repas et puis après vous dites, celui-là, j'ai mangé avec lui pour lui dire, il ne faut plus qu'il passe chez moi. Je ne sais pas si c'est comme ça se passe. Mais en général, si on invite quelqu'un à sa table, c'est qu'il y a un après. C'est qu'il y a un après. Et puis la prière, frères et sœurs. L'Église grandit que par la prière aussi. La prière ensemble. L'attachement à ces choses produisait des effets dans la vie des frères et sœurs et dans la vie de toute la communauté, au point où leur entourage observait qu'il y avait des changements dans l'Église. Le texte dit, à cause de l'amour que les gens voyaient vivre dans cette communion, dans cette première Église, Dieu ajoutait jour après jour ceux qui étaient sauvés. Parce que les gens voyaient qu'il y avait quelque chose de concret. Parfois, il est beau de parler d'amour, mais qu'en est-il de la pratique de l'amour? Parfois, il est beau de parler de la prière. Qu'en est-il de la pratique de la prière? Parfois, il est beau de dire la parole de Dieu est merveilleuse, mais qu'en est-il de sa lecture, de sa méditation et de son application? Bref, le témoignage de tous ceux qui avaient une responsabilité, ils témoignaient hardiment de ce que Dieu faisait. Mais aussi, Dieu punissait sévèrement ce qui n'était pas à sa gloire. Il semble que nous, parce que Dieu ne le fait plus de façon ipso facto, on a pris l'habitude de flirter avec certaines choses que Dieu n'aime pas, que Dieu nous aide. Nous n'avons pas l'habitude de flirter avec les choses que Dieu n'aime pas. Que le Saint-Esprit illumine nos cœurs, nos caractères, nos comportements, nos habitudes. Il le fait tout le temps, de toutes les façons. Là où il met une lumière rouge, que nous puissions dire, Seigneur, aide-moi pour pour l'éliminer de ma vie. Car ce n'est pas à ta gloire, ce n'est pas pour mon bien, ce n'est pas pour le bien de ma sœur et de mon frère. Et puis finalement, qui est au centre de nos vies? C'est Jésus. De par sa vie, de par son œuvre, de par sa mort, de par sa résurrection. Et maintenant, il est au ciel. Il est notre avocat. Il nous attend. Il reviendra. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous laisse chacun, chacune, entendre non seulement la voix qui nous dit « Je veux te changer, je veux te transformer en bien », mais la voix qui dit « Tu peux, je veux que tu sois un ouvrier, une ouvrière. Je veux, et tu peux être aussi un missionnaire, une missionnaire. Tu n'as pas besoin de partir loin, tu as besoin d'être là où Dieu veut que tu sois, à commencer dans cette église, à commencer dans ta famille, à commencer parmi tes proches. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ton nom est grand, ton amour est grand, et tu le manifestes concrètement. Ma prière, c'est que tu manifestes cet amour dans le cœur de chacun, de chacune. Cette compassion que tu as, tu aimes t'identifier à chacun d'entre nous pour nous aider à être transformé en bien. Transforme-nous. Que cette église soit une église à la gloire de ton nom. Que ce soit une église qui aime la parole de Dieu, qui aime lire, méditer, être aussi enseigné. Que ce soit une église où nous puissions continuer d'approfondir notre communion fraternelle. Que ce soit une église où nous vivons des relations saines, notre Dieu. Et tout cela dans la prière. Te bénissons en Jésus-Christ.